Radio Canus 102.2 FM, oui, on est bien sur Radio Canus 102.2 FM, il est 20h et c'est l'heure de la petite cuillère, émission contre toutes les prisons. Et ce soir, on va parler de plein de choses, mais avant toute chose, on vous lira une petite lettre d'un tôlard inconnu. On parlera après de Montréal et de grève de la faim en prison, on parlera de la Martinique. Et de l'administration pénitentiaire qui s'est fait condamner récemment. On lira une autre petite lettre de détenu, parce qu'on aime bien les lettres de détenu dans cette émission. Et puis, on aura nos petites rubriques habituelles, le bruit qui court, photomaton sur ce qui se passe chez les matons, lima ongle pour les gens qui arrivent à sortir de prison. Et malheureusement, ce soir, on n'a pas de message à l'intention des détenus de la région lyonnaise. Mais par contre, on aura sûrement une petite lecture de Papillon, un ouvrage hyper bien. Voilà, on commence avec une lettre.
Alors, on commence tout de suite avec le tôlard inconnu. Alors, il se décrit... Non, je recommence, c'est qu'en fait, ils font un petit making-of sur rue 89, Lyon, c'est là où on peut trouver ses lettres. Et c'est le tôlard inconnu risque de sévères sanctions en publiant ses écrits, alors il est anonyme. Ceci pour protéger son identité que le nom de la prison dans laquelle il se trouve actuellement n'est pas révélé pour l'instant. C'est une prison de la région Rhône-Alpes, quelque part dans une zone grise près de l'autoroute, bref, une prison banale. Quand viendra l'heure de sa libération, il dévoilera son identité et le lieu de son incarcération. J'imagine que si les détenus, vous nous écoutez, ça vous parle un peu des prisons au bord de l'autoroute où vous voyez à peine le soleil. Voilà, et je me permets aussi de vous saluer et vous souhaiter bon courage à l'intérieur de ces murs gris. On y va avec la lettre du tôlard inconnu. Je crois, lecteur, lectrice, qu'à partir du moment où l'on n'arrive pas à concevoir l'idée qu'une société sans prison pourrait exister, on ne peut pas comprendre grand-chose aux raisons fondamentales de l'inhumanité à laquelle ne peut échapper le système carcéral. C'est vrai que pour commencer à concevoir ce que certains appelleront utopie, il faut savoir la réalité du fonctionnement actuel des tôles. Or, ce système est tellement fermé qu'il est difficile de savoir ce qu'il s'y passe, excepté les prisonniers eux-mêmes et leurs gardiens et les prisonnières. La prison se réduit donc finalement à un face-à-face, sans la moindre chance d'un tiers modulateur, où d'un côté il y a ceux qui ont le pouvoir et la possibilité de faire de la propagande, et de l'autre ceux qui sont maintenus dans le silence et l'impuissance. Et si une personne est nommée officiellement pour tenter de faire un peu la part des choses, je pense à l'ancien contrôleur des prisons Jean-Marie Delarue, lorsqu'il critique trop fort cette situation inique, on le salit pour que ses propos deviennent caduques et on l'affuble de partialité. Je crois aussi que si on n'arrive pas à comprendre que la punition n'est qu'un dressage sans fondement philosophique et rabaisse l'homme à un animal dépourvu de conscience, que cette punition est uniquement au service de l'idéologie dominante des puissants et des gens de pouvoir, alors on aura encore plus de mal à se représenter un vivre ensemble sans enfermement et sans exclusion. Pour celles et ceux donc à l'extérieur qui croient être libres et qui ont quand même quelques soucis de cette situation folle où se vautrent la justice et la prison, cette tentative de compréhension est phagocytée par excès d'imaginaire qui, à partir de bribes d'informations, s'active en s'appuyant sur une expérience personnelle qui n'est pas l'enfermement physique et réel. Je le sais, avant de faire de la tôle, je n'y connaissais rien. Certes, je n'aimais pas cette répression et je savais que la justice était faite pour les riches et les dominants, mais je ne pouvais aller au-delà du centième de la réalité, coincée dans mes petites explications bien rassurantes. C'est d'ailleurs ça qui me pousse à témoigner. Je me suis dit, il faut qu'ils sachent. Et je m'aperçois que beaucoup ne veulent rien savoir. J'en tire la leçon suivante. Tant qu'on n'a pas l'expérience de quelque chose, on se contente du « on dit » qui circule et on l'annonce comme des élèves bien sages pour rester dans ses habitudes de pensée, saisissant des cas particuliers comme preuve irréfutable de sa vision personnelle, en confortant le tout dans un savoir préétabli. À moins d'une rigueur dans l'écoute et assez de sagesse pour mettre en retrait ses propres idées et ses croyances profondes, on défend une fausse réalité qu'on a construite soi-même. Du coup, je comprends aussi comment il est facile de se prétendre spécialiste ou expert sous prétexte d'études, de diplômes, d'enquêtes statistiques, et on sait bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, pour faire valoir un consensus stéréotypé. Certains, certaines, assez malins, malines, se construisent une sinécure et une rente qu'il n'est pas question de perdre. Et il n'y a personne pour les contredire, et si un autre a l'outrecuidance de les contredire, ils hurlent au loup et en rient avec mépris. Seuls, L'administration pénitentiaire peut faire voir sa façade qu'elle maquille avec la complicité de la presse et du plus grand nombre des bénévoles qui interviennent en prison. Elle enfonce le clou avec une masse, accréditant ainsi l'objectivité de ses experts, puisqu'ils les critiquent. Un peu, et ces derniers jouent le jeu en contestant mollement. Bouer, le copain de Sarko et Valls, en est le prototype. Il en est de même avec des associations qui se prétendent spécialistes. Évidemment, celle des bénévoles professionnels qui se légitiment de leur participation hypocrite, mais aussi d'autres comme l'Observatoire international des prisons, qui s'enferme dans un face-à-face juridique avec la pénitentiaire. Et tout le monde y va de son petit dictat, de sa sentence et de sa vérité, en parlant à la place des tolards et des tolardes. Et tout ce beau monde se regroupe bien vite sur le fait qu'une société sans prison, ça ne peut pas exister. Sauf nous. Nous, on aimerait bien une petite société sans prison. Du coup, Madame Michu et Monsieur Dugenou confortent leur approche déjà programmée et réclament sanctions et sévérité sécuritaire. Ceux et celles qui ont vécu ce dont parlent ces gourous experts, autrement dit les prisonniers et les prisonnières, et qui essayent de rectifier les mensonges, les dérives, les écarts, qui tentent de rétablir un minimum de réalité, se font censurer très régulièrement. D'abord parce qu'ils sont très majoritaires, très largement minoritaires et ne représentent aucun contre-pouvoir. On n'est quand même pas beaucoup de tolards à oser l'ouvrir. Ceci pour plein de raisons, et notamment celle de s'exprimer de manière audible. Il faut en effet mettre à distance sa révolte et sa haine que les conditions carcérales ont suscité, l'envie de tout casser et l'écœurement quotidien qui en découle, sa colère et son désespoir liés à l'inutile violence de la tôle. Il faut aussi avoir été capable dans sa jeunesse d'avoir pu supporter l'école dans ses principes militaires et concurrentiels pour avoir un langage et une syntaxe qui soient entendus par le plus grand nombre. On le voit bien avec l'actuel ministre des Finances, il est bien le premier à évoquer les illettrés qu'on licencie. Enfin, il faut pouvoir garder son envie de combattre, de ne pas courber les chines et de ne pas se laisser détruire. Cela fait beaucoup de choses à gérer. Dans la survie, la prise de parole n'est pas prioritaire. Et quand ils arrivent ou elles arrivent à le faire, ceux et celles qui arrivent à témoigner n'ont rien de spectaculaire à faire passer. Les micros se ferment, les journalistes regardent ailleurs. Aujourd'hui, seul compte le buzz. On peut alors comprendre les tentatives désespérées de monter sur les toits, de prendre quelqu'un en otage, de se rebeller ou de répondre à la violence par la violence. Ouais, c'est des beaux gestes de résistance.
Pas forcément si désespéré que ça d'ailleurs.
Si tu nous écoutes, Tolard Inconnu, on se permet de faire des petits commentaires à la lettre aussi. Et si malgré tout ils arrivent à glisser 2-3 mots, on les discrédite immédiatement. Comment ? Ils osent parler, ils sont délinquants, ils ont fait des horreurs, ils n'ont rien à dire. On tue leur parole pour ne pas y répondre. Je l'ai déjà dit, 75% des détenus ont des peines inférieures à un an et les crimes horribles dont nous gavent les médias ne représentent que 0,2% de la population carcérale et pourtant le fantasme est tenace. C'est pour ces raisons et d'autres encore que beaucoup prétendent, et particulièrement ceux et celles qui interviennent en prison, n'en déplaisent à tous ces bénévoles que j'interpellais dans mon texte précédent, qu'on peut donner un visage humain à la prison, qu'on peut respecter l'humain dans l'enfermement. C'est une position schizophrénique. Peut-on rendre humaine une torture quelle qu'elle soit ? Mais cette position réformiste a un gros avantage pour les bourreaux. Elle permet de faire perdurer tout ce système et le consolider si nécessaire, puisque cela revient à dire que la prison est inévitable, que c'est un mal nécessaire. On rajoute que cette horreur peut être pédagogique et rédemptrice. C'est la même schizophrénie où contrainte maximale et pédagogie seraient compatibles. C'est en liberté qu'on apprend, sinon on obéit. Or, si on ne combat pas pour l'humanisme sans concession, on devient tous inhumains. C'est vrai que l'homme et la femme est la seule créature capable de couper des arbres pour en faire du papier et écrire dessus qu'il ne faut pas couper les arbres.
C'est pas mal ça.
Réfléchis donc à ça et regarde alors si c'est le cas, pourquoi tu penses qu'il faut toujours de la prison.
Excellent, merci le Tolard Inconnu. On enchaîne avec une petite nouvelle sur Montréal.
Et oui, c'est une petite nouvelle très courte après ces nouvelles de la région. Ces quatre détenus qui sont entrés en lutte avec comme moyen de lutte une grève de la faim, ce qui est assez dur, depuis une semaine, depuis jeudi dernier. Et ils sont détenus au centre de détention de Sherbrooke, au sud-est de Montréal, pour dénoncer leurs conditions de détention, bien sûr. Ils sont du coup isolés du reste de la population carcérale de la prison Talbot. ils sont quatre et ils estiment vraiment que leurs droits sont bafoués, que leurs conditions de détention ne respectent pas la Charte des droits et des libertés du Canada, qui correspond à la Constitution ici. Tous les quatre, ils sont en attente d'être jugés, du coup, ils ne savent encore même pas pour combien de temps ils sont enfermés. Et là, ils sont isolés et leurs cellules sont hyper étroites. Ils ont droit qu'à une heure de sortie par jour, à l'écart, sans contact avec les autres. Comme ils sont en plus en détention préventive, il n'y a aucune histoire de permission ou tout ça, quoi. Et voilà. Et tous les quatre, ils sont en grève de la faim. L'équivalent de l'administration pénitentiaire au Québec, elle dit rien du tout, à part qu'elle dit que les actions appropriées ont été prises, ce qui ne veut pas du tout dire améliorer leurs conditions de détention, ça veut plutôt dire leur faire manger plus, on imagine. Et voilà. Et maintenant, on va retourner en France, mais rester de l'autre côté de l'Atlantique avec ce qui se passe au centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique. Parce que l'Observatoire international des prisons a saisi la justice il y a quelque temps, le 13, c'était il y a 10 jours, pour un problème de surpopulation, pour un problème de locaux insalubres, infestés de rats, d'insectes, de cafards, des cellules de 9 mètres carrés où il y a 5 personnes qui s'entassent quand même, pas de travail et beaucoup de violence. Et du coup, les détenus, ils sont soumis à des conditions de vie vraiment plus qu'insupportables. Déjà en 2012, il y avait une pétition qui avait rassemblé 136 signatures à l'intérieur de la prison. Organiser une pétition en détention, c'est interdit et c'est hyper dur à faire. Et du coup, voilà. Et suite à ça, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, a saisi la justice. Et c'était il y a 2 jours que l'administration pénitentiaire a été condamnée pour ces atteintes graves portées aux droits fondamentaux des personnes détenues dans l'établissement de Ducos en Martinique. C'est une décision qui a eu lieu du coup la semaine dernière avec notamment l'administration pénitentiaire sera obligée de dératiser, de désinsectiser les locaux, la tôle. Alors c'est ouf quand même qu'on en arrive à la justice qui oblige l'administration pénitentiaire à dératiser une tôle, quoi. Mmh. Comme d'habitude, pour en arriver là, c'est malade, quoi. Et pareil, l'administration pénitentiaire est désormais obligée de fournir aux détenus des produits de nettoyage pour les cellules, des poubelles et des sacs poubelles. Le juge, il a dû aller jusqu'à dire il faut les poubelles, mais il faut les sacs poubelles aussi, quoi. Parce qu'on imagine que le dire l'eau de la tôle, il n'y aurait pas pensé tout seul et qu'il n'aurait rien fait chier.
Tant qu'on n'a pas dit, hein, c'est pas évident. Hein. Un sac poubelle dans une poubelle, qui pourrait se douter qu'il en faut un, tu vois.
Exactement. Voilà, et après, ce qu'ils disent aussi, c'est le juge, c'est il est de la responsabilité de l'administration pénitentiaire de permettre aux détenus de pourvoir à leur hygiène personnelle, sans que cette possibilité dépende de leur capacité financière. Donc, en clair, il va falloir que l'administration pénitentiaire donne aux détenus des kits de produits d'hygiène corporelle régulièrement et non pas juste à leur entrée 11-11, alors qu'ils vont peut-être y rester 6 mois ou un an ou beaucoup plus, quoi. Enfin voilà, il y a aussi plein d'autres petites choses sur la mise aux normes de l'électricité, sur l'évacuation des eaux dans les cours de promenade, parce qu'en ce moment, quand il pleut, l'eau stagne dans la cour, il n'y a pas d'évacuation, du coup au bout de quelques jours, la cour elle est impraticable et plus personne n'a le droit de sortie. Jusqu'ici, personne s'en souciait, quoi. Il a fallu que l'OIP saisisse un juge.
Il doit y avoir des tonnes de moustiques.
Voilà. Enfin, peut-être que l'administration pénitentiaire attendait juste 2015, l'année prochaine, l'ouverture de 160 places supplémentaires dans cette tôle qui ne régleront rien et feront juste aggraver la situation une fois de plus. Voilà pour la Martinique.
Et ouais, on va peut-être s'écouter un petit morceau de musique sur ces bonnes paroles.
Allons-y.
ADN, Africain du Nord, Momo, écoute. L'Afrique est éventrée, l'homme blanc s'est pointé, épée sous la ceinture et la Bible au poignet. Pillés, dépouillés, commandements respectés, voleurs, violeurs, le tiers-monde est leurré. En guise de point de suture, des frontières sont établies, louées sont leurs actions, exactions et colonies. Ethnocide, pédophile, agression et calomnie, l'héritier des lumières a fini ébloui. Sortez de l'ornière et oubliez les projecteurs, l'Occident ne mérite cette mise en valeur. L'homme noir n'a pas d'âme, quel esprit illuminé, l'or noir gloire a du charme, je viens le souligner. Des parcs animaliers au commerce triangulaire. Aujourd'hui, boucherie lettrée sur nos terres, ils offrent à nos pères pelle et marteau piqueur. Le soulèvement se prépare, tes prouesses nous écœurent. Diabolisé, tupé, Henri inculqué, d'un culte insulté, barbu inculpé. Il verse le sang, donc mon sang est sale. Vire ton auréole, ornement et piédestal. Diabolisé, tupé, Henri inculqué, d'un culte insulté, barbu inculpé. Il verse le sang, donc mon sang est sale. Vire ton auréole, ornement et piédestal. Israël et l'Occident, une connivence bien réelle. Martèle les esprits pour que les damnés ne se réveillent. Tremble à l'idée que leur complot se révèle. Enjôler les esprits, c'est ce à quoi ils veillent. Clivage social et tourisme sexuel. La phobie du barbu a hanté des ruelles. Même sous leur voile, nos mères y voient très clair. Qui sont les terroristes? Qui est-ce qui fait peur? Fabricants d'armes pour enfants, Israël au premier rang, Palestine, Rwanda, ils font couler le sang. Congo, Angola, appâtés par les diamants, fructifier leur PIB. Plus rien de surprenant, au rabot les câlinés, tu resteras embroché. L'amour est une grosse garce que seul l'euro peut approcher. Les poumons du tiers-monde menacés de silicose. La poitrine à Marianne bourrée de silicone. Diabolisé, tupé, Henri inculqué, d'un cul insulté, barbu inculpé. Il verse le sang, donc mon sang est sale. Vire ton auréole, ornement et piédestal. Diabolisé, tupé, Henri inculqué, d'un culte insulté, barbu inculpé. Il verse le sang, donc mon sang est sale. Vire ton auréole, ornement et piédestal. Vire ton auréole, ornement et piédestal. Il verse le sang, donc mon sang est sale. Ouais. Pour qui fera haut? Soulèvement, ouais. Sur une prod Adrix, on revient plus surprenant.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Vous venez d'écouter Momo ADN, qui sont les terroristes. Et on est toujours dans l'émission La Petite Cuillère.
Pierre par pierre.
Le bruit qui court.
Et on commence tout de suite par les derniers chiffres de l'administration pénitentiaire que relayait 20 minutes le 16 octobre. Le nombre de détenus en France a enregistré une légère hausse de 0,2% sur un mois et atteignait
66 494 personnes
au 1er octobre 2014. La population détenue, en revanche, est en baisse de 1,2% sur un an. Bravo ! Merci, monsieur et madame les juges. Sur les 66 494 détenus, 99 404 sont des condamnés et 17 090 des prévenus, en attente de jugement pour les prévenus. Les mineurs incarcérés sont au nombre de 712, 1,1% des personnes incarcérées, un chiffre en hausse de 3,2% par rapport au mois précédent. C'est bien précis. Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires français, nombre de détenus rapporté au nombre de places théoriquement disponibles, est de 114,5% contre 115,35% le mois précédent. Encore une petite baisse, bravo l'administration
presque
pénitentiaire.
1%, incroyable.
Vous avez construit des nouvelles prisons, non, dites-moi. Il s'agit du plus faible taux d'occupation depuis janvier 2012. Il doit y avoir de nouvelles prisons en métropole et dans les départements d'outre-mer, non ? Par ailleurs, 12 830 personnes bénéficiaient d'un aménagement de peine début septembre. Chiffre à rajouter aux 66 494 détenus enfermés dans des prisons. On en arrive alors à 79 324 personnes sous écrou. Ça veut dire contrôlés par le ministère de la Justice, tandis qu'ils étaient 78 363 l'an dernier, selon Banque Publique. Bouh, en fait, vous enfermez beaucoup de personnes. Parmi les placements hors maison d'arrêt et centre pénitentiaire, 1018 étaient en placement extérieur, ce que je ne sais pas ce que ça veut dire. 1692 en semi-liberté, ils travaillent la journée et le soir ils retournent dans une prison où ils sont contrôlés par des matons. Et 10 120 sous surveillance électronique, et là ils sont plus contrôlés par les poste de police. Enfin, 502 personnes étaient placées sous surveillance électronique de fin de peine, moins 16,3% par rapport à septembre. La population carcérale n'est donc pas en baisse, malheureusement, par rapport à ce que vous avez voulu dire l'administration pénitentiaire, vu que le nombre de personnes avec bracelet électronique ne fait que d'augmenter en France. Les chiffres, toujours la même histoire, c'est toujours facile de leur faire raconter ce qui nous intéresse de valoriser. Et vous n'avez toujours pas fermé les prisons par rapport à ce qu'on vous recommandait, voyons.
Alors, après ce petit blabla sur les chiffres ici, nous allons aller en Grèce le 16 octobre. Le principal organisme européen en matière de droits de l'homme a critiqué les conditions dans les prisons et centres de détention pour migrants de Grèce. Il n'y a eu aucune amélioration, malgré des recommandations présentées il y a 2 ans. Ce rapport s'appuie sur des visites réalisées en avril 2013 dans 25 postes de police et services frontaliers, 7 prisons et 8 centres de détention de l'immigration et de la garde côtière par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, autrement appelé CPT. Il y est dénoncé la multiplication des mauvais traitements imposés aux suspects par la police lors des arrestations, la surpopulation chronique des prisons et des centres pour migrants, ainsi qu'un manque de gardiens dans les prisons. La plupart des prisons fonctionnent au double ou au triple de leur capacité, des détenus partagent des lits quand ils ne dorment pas sur des matelas jetés au sol. Des centaines de suspects ou de gens récemment condamnés sont détenus pendant des mois dans des postes de police où les cellules ne sont absolument pas conçues pour accueillir des gens pendant plus de 24 heures. Les conditions sont également mauvaises pour les migrants interpellés et enfermés dans les centres de rétention. Voilà pour un petit point sur la Grèce qui est non plus pas exceptionnelle par rapport au reste du panel des prisons ici et ailleurs.
Et oui, et puis on se rapproche un peu en restant en Europe avec la Belgique, parce que pendant que des collectifs se battent contre les longues peines, comme vous l'avez entendu la semaine dernière avec le collectif Camel Libre sur l'émission Papillon, au même moment, à la même heure, le même jour que nous, d'autres collectifs en Belgique, se battent pour réclamer des peines incompressibles pour les dangereux criminels qui sortent trop facilement de prison. Et les médias, par contre, là, ils relayent vraiment cette volonté des honnêtes citoyens, citoyennes, de laisser au trou ceux qu'ils ne veulent pas voir ni se préoccuper, comme si c'était la bataille de l'année. Voilà comment ils en parlent. C'est un vieux et long combat, initié jadis par Jean-Pierre Malmandier, qui s'apprête à aboutir. Jean-Pierre Malmandier, c'était un homme politique, dont les 2 enfants avaient été tués. Et de cet événement malheureux, il en a fait une lutte pour imposer que les 2 tenus restent en prison et galèrent pour en sortir. Malheureusement, ce ne sont pas 20 personnes qui ont signé dans leur coin cette pétition, mais bien 2,6 millions de signatures, c'est abusé quoi, déposées dernièrement au Parlement belge. Seul le parti MR, parti de droite, issu de la coalition de plusieurs partis, soutient cette proposition. Mais le Parlement est en train d'étudier en ce moment, vraiment, c'est comme en tant que proposition de loi. Ça va sûrement aboutir à ce qu'on connaît déjà en France, les peines de sûreté, où dès le début du procès, il est mentionné par le juge que la peine qui devra être en tout cas exécutée, et même qu'au minimum, après, il faudra que le détenu demande une permission supplémentaire pour sortir. Voilà.
Le 22 octobre aux États-Unis, un prisonnier vient de lancer une procédure pour violation de ses droits civils dans l'état du Connecticut. Les gardiens de l'établissement pénitentiaire lui ont en effet refusé la lecture d'un livre contenant des nus masculins et féminins en s'appuyant sur la loi de l'État qui dit « Cette dernière interdit la consommation de contenu pornographique en prison ». Mais bon, déjà c'est un premier point. Mais là, le livre en question est l'Atlas of Forest...
Foreshortening the Human Figure in Deep Perspective.
Voilà. Un ouvrage de référence pour apprendre le dessin d'art et plus spécifiquement la reproduction du corps humain. Il contient à ce titre plus de 500 photographies. Du coup, le détenu a décidé de poursuivre l'État qui lui interdit, en fait, juste de développer ses talents de dessinateur. Alors, ils sont vraiment puritains là-bas parce qu'ils veulent pas. C'est interdit d'avoir des livres porno. Du coup, ça, c'est vraiment la liberté individuelle de chacun. Et en plus, il extrapole à tout et n'importe quoi.
Et ouais, si t'as un papier de bonbon avec un bonhomme ou une madame toute nue, ça ne passera pas non plus.
Mais est-ce qu'ils interdisent, par exemple, les boîtes de... Bon, ouais. Les briquets avec une femme nue, ou je sais pas, il y a plein.
Je pense, ouais, les jeux de cartes, tout. Je pense tout. On On repasse en France, où une fouille de la prison de Seine-Saint-Denis à Villepinte était en cours ce mercredi soir. L'opération surprise visait une partie seulement de cette prison où sont actuellement enfermés près d'un millier de détenus, alors que le site a été initialement prévu pour 588 prisonniers. Le but de cette opération, à laquelle est associée l'ERIS, l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, c'est les robocops qui viennent, les robocops flics qui viennent dans les prisons.
Casqués et tout, masqués.
Casqués, masqués avec des gros boucliers et des gros bâtons pour taper sur les gens, et de trouver tout objet interdit en détention. Du coup, voilà, ils font une grosse fouille et ils retournent la tôle.
En Tunisie, c'était le 23 octobre, le directeur général des prisons et de la rééducation a annoncé mettre en place l'usage des bracelets électroniques pour permettre la diminution des encombrements dans les prisons. On recite encore une fois, diminution des encombrements dans les prisons. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au lieu de parler d'hommes et de femmes et de personnes trans purgeant une peine dans un lieu qui les prive de leur liberté, eh ben, qu'est-ce qu'il dit le directeur général des prisons? Il les nomme comme des objets. Et comme c'est aussi des sous et des budgets, l'instauration des bracelets électroniques permettra à la diminution de la moitié des prix en charge de prisonniers. Mais c'est joli, électroniques. Les bracelets électroniques. Même argument utilisé de pays en pays, partout, ça coûte moins cher. Les autorités françaises et tunisiennes, même combat. En tout cas, sur ce point-là, il y a des chances.
Et si on passait à la lecture d'une lettre de détenu, parce qu'on rappelle, si vous avez envie de nous écrire, vous pouvez tout à fait bien nous écrire. On vous donnera l'adresse tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est une lettre qui a été relayée par le collectif L'Envolée, qu'on peut lire sur leur site internet. Et du coup, Youri est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Courba. Alors peut-être que tu nous écoutes et on te salue. Il est en prison depuis l'âge de 18 ans et libérable en 2032. Condamné depuis un an, il est toujours en maison d'arrêt et réclame son transfert désespérément. La paix fait la sourde oreille à ses demandes répétées. C'était une lettre du 26 mai 2014 que L'Envolée vient de publier, ce qu'ils vont pas sortir de journal Stoughton. Du coup, ils ont mis en ligne toutes les lettres qu'ils ont reçues pour qu'elles soient diffusées et lues dans des émissions comme les nôtres, par exemple. Bonjour, je vous écris à ce jour car je souhaite que l'on sache qu'à l'ombre de la soi-disant République, les lois, les droits en tant que citoyens, citoyennes, certes détenus, mais citoyens, citoyennes tout de même, et hommes et femmes avant tout, ne sont pas respectés. L'administration pénitentiaire n'a que faire des lois qui la régissent et après se donne un droit de regard sur ce qu'il se passe ailleurs dans d'autres pays en dénonçant la violation des droits fondamentaux. C'est une honte et j'ai honte à leur place malgré que moi-même je suis victime de cette vieille machine cassée qu'est le ministère de la Justice et de tout ce qui gravite autour, tribunaux, prisons, garde des sceaux. Et la direction de l'administration pénitentiaire qui loge 13 place Vendôme à Paris. Sans doute que l'éclat des vitrines des belles joailleries empêche ces bureaucrates de voir qu'il n'y a point de dignité humaine dans leurs établissements pénitentiaires. Voilà maintenant plus d'une année que j'ai été condamnée par la cour d'assises du Rhône à 15 ans de réclusion criminelle. Du coup, c'est ce qu'on vous parlait, la loi qui va passer en Belgique. Là est le problème, pas la condamnation. Bien que là encore, je ne trouve pas normal qu'un juge s'enferme avec le jury pour les influencer dans leur verdict, alors que soi-disant, il revient au juré et au seul juré seul de décider si quelqu'un est coupable ou non. Sinon, à quoi servent-ils ? À la décoration peut-être, ou alors un simple artifice pour faire croire à un semblant de justice impartiale. J'en viens au but. Depuis la loi pénitentiaire de novembre 2009, l'article 717 du Code de procédure pénale stipule que tout détenu auquel il reste une peine supérieure de 2 ans à subir peut à sa demande obtenir son transfèrement en établissement pour peine dans un délai de 9 mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. En l'occurrence, j'ai été condamnée le 20 juin 2013. Je vous laisse faire le calcul. C'est illégal que je sois encore en maison d'arrêt d'après la date du 30 mars 2014. Mais à l'ombre de la République, rien ne se passe dans les règles de l'art et cela ne choque personne dans ces lieux, sauf quelques surveillants et personnels de cette administration qui sont profondément humains dans l'âme, mais malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir de décision me concernant. Ils alertent ceux qui en ont, mais cela reste de marbre. Je ne suis qu'un dossier de plus, un vulgaire numéro d'écrou pour eux. Le pire dans cette histoire, c'est qu'en janvier 2014, la direction régionale des services pénitentiaires de Lyon avait écrit à mon avocat que courant mars 2014, elle est transférée près de mes proches car je me trouve à 800 km d'eux et donc sans visite, sans soutien. J'ai même dû, à mon grand regret, laisser s'envoler la femme que j'aime car on sait bien que la relation à distance ne dure qu'un temps et moi cela fait plus de 2 ans que je suis loin d'elle. Cependant, malgré la promesse écrite d'un transfert prochain, cela n'a pas été le cas, car chose incroyable mais pourtant vraie, cette décision de rapprochement familial a été annulée pour un motif dérisoire, mais en creusant un peu, j'ai finalement appris qu'en vérité, il s'agissait d'une guéguerre de bureaucrates et que j'étais au milieu de celle-ci, servant de prétexte pour faire, excusez-moi du terme, chier certaines personnes. Cette annulation venait de la direction de l'administration pénitentiaire à Paris, plus précisément du bureau gestion et détention. Siège là-bas depuis quelque temps, l'ancienne directrice de la maison d'arrêt où je me trouve. Elle était et est toujours en conflit avec du personnel de cette même maison d'arrêt. Je ne suis pas seule. Des surveillants sont en procédure au tribunal contre elle, preuve qu'elle agit comme elle veut. Et quand elle s'est aperçue que mon dossier venait de son ancien lieu de travail, elle a annulé tout simplement ce transfert, car elle le peut, vu qu'elle a gravi les échelons dans cette administration. C'est une petite vengeance pour elle, mais qui a de graves conséquences pour moi. J'ai tellement de choses à dire, mais pour cela je manque de preuves à vous donner. Alors je me contente de vous dire ce que je peux affirmer et vous faire parvenir cette lettre. J'ai fait évader celle-ci par des personnes de confiance que je remercie, car en prison il est strictement interdit d'écrire aux médias, car la censure est présente comme en Corée du Nord. Pourtant des gens sont morts pour le droit de s'exprimer et des gens meurent encore ou sont détenus pour le simple fait de faire leur métier ou leur passion. Le journalisme a un gros big up à vous. Et je me fiche de la vengeance de l'administration pénitentiaire pourrait me faire subir si elle découvre que je vous ai écrit ou qu'elle découvre un article dans lequel mon nom est cité. Si tel est le cas, je vous remercie de m'avoir lu et j'espère qu'un jour cette lettre permettra de faire avancer les choses très cordialement. PS. J'ai 23 ans et je suis en prison depuis l'âge de 18 ans, et ce pour une même et unique affaire. Je suis actuellement libérable en 2022. Je ne sais pas ce que c'est qu'être un homme majeur et libre, et décidément on ne veut pas que je sache ce que c'est, car être détenu en maison d'arrêt empêche la réinsertion et une possible libération conditionnelle, compte tenu qu'en ce type de structure, la loi ne m'autorise à avoir des permissions de sortie qu'à partir de 2019. Alors qu'en centre de détention, j'y ai le droit depuis quelques mois déjà. Et cela faciliterait une libération conditionnelle en milieu d'année 2016. J'aurais alors effectué près de 9 ans de prison et mes obligations et contraintes continueraient jusqu'à la fin de ma peine en 2022. Après avoir passé autant d'années en prison et si jeune, après avoir gâché mes plus belles années, j'ai déjà envie d'autre chose comme vie et je ne demande pas une seconde mais plutôt la première chance que l'on ne m'a jamais donnée. Enfance chaotique, père absent et drogué, mère dépressive, expulsée de ma maison à 12 ans par des huissiers, le foyer puis la prison. Alors je souhaite vraiment cette première chance d'avoir une vie entre guillemets normale un jour, même si ma vie d'avant laissera forcément une trace au fer rouge sur ma mémoire.
Eh ben merci Yuri, et puis rage et courage si tu nous entends. Hein.
Et puis pareil pour les autres qui sont entre les murs de Corba en ce moment.
Oui, ou de tout autre endroit où ils sont enfermés. On va s'écouter une petite musique maintenant. Bon, normalement, ça devrait partir, cette histoire. êtes toujours sur l'émission de Radio La Petite Cuillère, Pierre par Pierre. Nous détruirons toutes les prisons sur Radio Canus 102.2. Et on profite de cette petite musique pour vous appeler à soutenir Kobané. Parce que ce week-end, samedi à 15h, place Bellecour, il y a une manifestation en soutien à Kobané, appelée par l'association culturelle Mésopotamie, l'association culturelle de Pierre Sultan Abdal, des Alévis de Belleville, Centre culturel des Alévis, Lyon, AKM, Alatique, le... Bon, hein, toute une chier de personnes qui appellent à manifester, c'est par rapport à Kobané, c'est cette ville à la frontière de la Syrie, où des Kurdes et tout un tas d'autres personnes se font défoncer par le Daesh, et où il y a un massacre incroyable. Du coup, vous pouvez venir soutenir.
Et on a mis cette petite musique, parce que c'est une musique kurde du Kurdistan de Turquie, voilà, pour faire un petit soutien aux YPJ qui se battent en ce moment pour la liberté, voilà.
Excellent. Et maintenant, c'est la faute à qui ?
La faute au maton !
Et ouais.
Et on commence la faute au maton avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les matons, aujourd'hui ? C'était ce matin, à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Les matons, à l'appel de leur syndicat, ont réclamé que soient pourvus 26 postes de surveillance sur un total de 240 gardiens, donc ils en veulent 10% de plus, et pour ça, ils ont bloqué la tôle. Le blocage de cette prison a été décidé à l'occasion de la visite, aujourd'hui même, du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire dans le coin là-bas, Pierre Duflot. Selon le syndicat FO, 21 000 agressions ont été recensées contre les gardiens en tenue l'an passé. Alors, si c'est 21 000 agressions, ça doit être en tout, quoi, pas juste sur cette maison centrale, parce que quoi, quand même pas abusé.
Ouais, c'est clair.
Enfin, sinon, ils en ont pris vraiment plein la gueule, quoi, les 240 gardiens.
Mais ils aiment bien comment ils le formulent, quoi. Ça a été recensé contre eux, quoi. Tu sais pas. Ils sont dans un monde vraiment horrible, quoi. Voilà. Tout le monde leur en veut sans raison, ce qu'on sait bien.
C'est toujours pareil, c'est comme cette histoire de chiffres tout à l'heure. De toute façon, les chiffres, c'est bien pratique parce qu'on peut leur faire dire qu'est-ce qu'on veut.
C'est ça. Et puis on peut dire que c'est bien eux les petites victimes, ces agents en uniforme.
Et au passage, ils en profitent pour demander plus de thunes et puis gratter un peu plus de thunes. Parce que la fiscalisation, c'est-à-dire payer des impôts sur les heures supplémentaires, ça, ils aiment pas du tout. Parce qu'en fait, des heures supplémentaires, ils en font plein. Et il y en a un qui dit qu'il a fait du coup 500 heures sup cette année. Et avec l'imposition, il est passé de 700 euros d'impôts sur le revenu à 2500 balles. Et oui, ce qu'il nous a pas dit, c'est combien il était payé de l'heure sup et combien ces 500 heures sup lui ont fait gagner sur l'année.
Et ils s'insurgent contre l'abandon des fouilles systématiques des détenus à la sortie du parloir et qui contestent ces prisons qui sont devenues des prisons passoires. Ils peuvent plus aussi bien contrôler. On enchaîne avec au Brésil, le 20 octobre, dans une prison, il y a des détenus. Celle-là, elle est à Paraná, au sud du Brésil, et ils ont pris en otage 12 surveillants. La mutinerie, du coup, ça, les surveillants, ils qualifient ça d'une agression. Mais les personnes, ils prennent en otage des gens pour réclamer des droits.
Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens pour faire entendre leur voix.
Et oui, les choses ont toujours deux faces. La mutinerie a pris fin mercredi après 2 jours de négociations, notamment pour obtenir des transferts dans les prisons souhaitées. C'est la 5e mutinerie en un peu plus d'un mois dans les prisons du Paraná et la 20e depuis décembre 2013. Alors, je crois que j'ai lu ça dans le Figaro. Et du coup, il disait, les prisons du Brésil abritent quelques 563 000 détenus, la 4e population carcérale du monde derrière les États-Unis, la Chine et la Russie, selon Amnesty International. Alors après, j'ai voulu chercher le classement d'Amnesty International sur leur site, j'ai pas trouvé. Et du coup, comme au début de l'émission, on disait qu'en France, il y avait 789 000 détenus, personnes sous écrou, on se dit, mais c'est quoi leur classement? C'est toujours pareil, les infos. Les gens nous disent vraiment que ce qu'ils veulent, quoi. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mutineries en ce moment au Brésil parce qu'il manquerait 200 000 places pour éviter les problèmes de surpopulation. Voilà.
Alors, on revient en France, au Bois d'Arcy, et c'est le 17 octobre. 5 surveillants ont été blessés lundi à la maison d'arrêt du Bois d'Arcy. Vers 17h30, deux détenus qui avaient réintégré leur cellule après la promenade s'en sont violemment pris à ses surveillants. On ne sait pas pourquoi, quelles ont été les causes et qu'est-ce qui les a poussés à ça. Voilà.
On continue avec hier matin, et ben dans cette même tôle du Bois d'Arcy, devant les portes de la maison d'arrêt, puis même en centre-ville, alors là, ils ont bougé quoi les matons, ils sont allés dénoncer la multiplication des actes de violence dus à la surpopulation carcérale.
Ah bah tiens,
il en manquait de peu pour qu'on soit d'accord, mais pas de chance, voilà, ils n'ont pas dénoncé leur propre violence.
Et puis ils n'ont pas demandé la fermeture de toutes les prisons de France.
Très bien, et eh bien maintenant je vous propose d'enchaîner avec la rubrique suivante.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir, les détruire un petit peu. La vie m'a ongle, une rubrique sur toutes les évasions.
Samedi 11 octobre, les matons ont fait une petite erreur devant la prison d'Oran en Algérie. Ils ont démenotté un détenu qu'ils ramenaient à la tôle juste avant de rentrer. Le détenu ne s'est pas fait prier et est parti en courant. Il s'est rendu aux flics 2 jours plus tard.
Et le 17 octobre, un homme s'est évadé de la gendarmerie de Digne-les-Bains. On ne sait pas comment il a fait et apparemment, il n'a pas été retrouvé.
Big up. Le lendemain, c'était le 18 en République démocratique du Congo. Ça, il y a eu lieu une immense évasion. La prison de Kakwangura, a été attaquée de l'extérieur et au moins 230 détenus se sont barrés. Une petite trentaine aurait été rattrapée par l'armée.
Le lendemain, dimanche, c'est un comico de Lorient. Un homme profite du fait d'être démenotté pour simuler un malaise. Il prend les jambes à son cou. Ça n'aura pas duré longtemps. Les Condés l'ont rattrapé dans la cour du commissariat. Et en fait, on va faire une petite rectification. Parce que quand je comparais les chiffres de la France au sud du Brésil, j'ai eu un bug de dizaines. Vous savez, quand on apprend les unités de dizaines, centaines et tout, bah là, c'était des trop longs chiffres et j'ai eu un bug. Et du coup, c'est normal que la France ne soit pas dans le classement.
Parce que 79 000 détenus et non pas 790 000, heureusement.
C'est bien avec nous, vous faites aussi des cours de mathématiques. Du coup, on est toujours sur Radio Canus en 2.2 FM avec la petite cuillère, pierre par pierre.
Et maintenant, c'est l'heure de la lecture. Il y a 2 semaines de ça, on avait commencé à vous lire un extrait du livre Papillon qui a été écrit par Henri Charrière. Henri Charrière, c'est celui à qui il arrive cette histoire, c'est justement ce papillon en question. Ça se passe en 1931 et là où on en est, et ce que je vous ai raconté il y a 2 semaines, c'était le procès de Papillon, où lui, il est allé à son procès un peu la fleur au fusil. Il croyait qu'il allait être libéré parce qu'il n'y avait pas de preuves formelles contre lui. Et en fait, il a été envoyé au dur, du coup, aux travaux forcés. Et là, il est incarcéré en attendant d'être transféré aux travaux forcés. Dehors, il fait nuit. Je suis seule dans cette cellule. Une grosse lumière au plafond permet aux gaffes de me voir par un petit trou percé dans la porte. Cette lumière puissante m'éblouit. Je pose mon mouchoir plié sur mes yeux car vraiment elle me blesse les yeux. Je suis étendue sur un matelas, posée sur un lit de fer, sans oreiller, et je revois tous les détails de cet horrible procès. Alors là, pour qu'on puisse comprendre la suite de ce long récit, pour qu'on comprenne à fond les bases qui me serviront à me soutenir dans ma lutte, il faut peut-être que je sois un peu long, mais que je raconte tout ce qui m'est venu et que j'ai réellement vu dans mon esprit dans les premiers jours où j'ai été enterrée vivant. Comment m'y prendrais-je quand je me serais évadée ? Car maintenant que j'ai le plan c'est l'argent qu'il a mis dans son anus dans un petit tube, je ne doute pas un instant que je m'évaderais. D'abord, je reviens le plus vite possible à Paris. Le premier à tuer, c'est ce faux témoin de Paulin. Puis, les deux condés de l'affaire. Mes deux condés, ce n'est pas assez, c'est tous les condés que je dois tuer. Du moins le plus possible. Ah, je sais. Une fois libre, je reviens à Paris. Dans une malle, je mettrai le plus d'explosifs possible. Je ne sais pas trop, 10, 15, 20 kilos. Et je cherche à calculer le nombre d'explosifs qu'il me faudrait pour faire beaucoup de victimes. De la dynamite ? Non, lâchez dite, c'est mieux. Et pourquoi pas de la nitroglycérine ? Bon, ça va, je demanderai conseil à ceux qui sont là-bas et qui en savent plus que moi. Mais les poulets, qu'ils me fassent confiance, je mettrai le compte et ils seront bien servis. J'ai toujours les yeux fermés et le mouchoir sur les paupières pour les comprimer. Je vois très nettement la malle, d'apparence inoffensive, chargée d'explosifs, et le réveil, bien réglé, qui actionnera le détonateur. Attention, il faut qu'elle éclate à 10h du matin dans la salle du rapport de la police judiciaire, 36 quai des Orfèvres, au premier étage. À cette heure-là, il y a au moins 150 poulets réunis pour prendre les ordres et écouter le rapport. Combien il y a de marches à monter ? Faut pas que je me trompe. Il faudra minuter le temps exactement nécessaire pour que la malle arrive de la rue à sa destination à la seconde même où elle doit exploser. Et qui portera la malle ? Bon, je me payerai le culot. J'arrive en taxi juste devant la porte de la police judiciaire et aux deux condés de garde, je leur dirai d'une voix autoritaire « Montez-moi cette malle à la salle du rapport, je vous suis. Dites au commissaire Dupont que l'inspecteur chef Dubois envoie ça et que j'arrive aussitôt. » Mais vont-ils obéir ? Et si, par hasard, dans cette multitude d'imbéciles, je tombe sur les deux seuls intelligents de cette corporation, alors ce serait raté. Va falloir que je trouve autre chose. Et je cherche. Dans ma tête, je n'admets pas que je ne réussirai pas à trouver un moyen sûr à 100%. Je me lève pour boire un peu d'eau. De temps passé, j'en ai mal à la tête. Je me recouche sans le bandeau. Les minutes coulent lentement. Et cette lumière, bon Dieu. Je mouille le mouchoir et je le remets. L'eau fraîche me fait du bien et par le poids de l'eau, le mouchoir se colle mieux sur mes paupières. Dorénavant, j'emploierai toujours ce moyen. Ces longues heures où j'échafaude ma future vengeance sont si aiguës que je me vois agir exactement comme si le projet était en voie d'exécution. Chaque nuit, et même une partie de la journée, je voyage dans Paris, comme si mon évasion était chose faite. C'est sûr, je m'évaderai et je reviendrai à Paris. Et bien entendu, première chose à faire, je présenterai la note à payer, d'abord à Paulin et après au poulet. Et les jurés. Ces connards, ils vont continuer à vivre tranquilles, ils ont dû rentrer chez eux s'écroulant, très satisfaits d'avoir accompli leur devoir avec un grand D, plein d'importance, gonflé d'orgueil auprès des voisins. Bon, les jurés, que dois-je faire avec eux ? Moi, rien. Ce sont des pauvres cons, ils ne sont pas préparés pour être juges. Si c'est un gendarme en retraite ou un douanier, il réagit comme un gendarme ou comme un douanier. Et s'il est laitier, comme un laitier. Ils ont suivi la thèse du procureur qui n'a pas eu de peine à les mettre dans sa poche. Ils ne sont pas vraiment responsables. Aussi, c'est décidé, jugé et réglé, je ne leur ferai aucun mal. En écrivant toutes ces pensées que j'ai réellement eues il y a déjà tant d'années et qui reviennent en foule m'assaillir avec une clarté terrible, je me dis à quel point le silence absolu, l'isolement complet, total, infligé à un jeune homme, enfermé dans une cellule, peut provoquer, avant de virer à la folie, une véritable vie imaginative. Tellement intense, tellement vivante, que l'homme se dédouble littéralement. Il s'envole et va vraiment vagabonder où bon lui semble. Sa maison, son père, sa mère, sa famille, son enfance, les différentes étapes de sa vie. Et puis, et surtout, les châteaux en Espagne que son esprit fécond invente, qu'il invente avec une imagination si incroyablement vive que dans ce dédoublement formidable, il arrive à croire qu'il est en train de vivre tout ce qu'il est en train de rêver. 36 ans ont passé et pourtant, c'est sans le moindre effort de mémoire que ma plume court pour retracer ce que j'ai réellement pensé à ce moment-là de ma vie. Non, je ne leur ferai aucun mal aux jurés. Mais l'avocat général, ah, celui-là, faut pas le louper. Pour lui, d'ailleurs, j'ai une recette toute prête, donnée par Alexandre Dumas. Agir exactement comme dans le conte de Monte Cristo. Avec le mec qu'on avait mis dans la cave et qu'on laissait crever de faim. Ce magistrat, oui, il est responsable. Ce vautour affublé de rouge, il a tout pour que je l'exécute le plus horriblement possible. Oui, c'est ça. Après Paulin et les poulets, je m'occuperai exclusivement de ce rapace. Je louerai une villa. Elle devra avoir une cave très profonde, avec des murs épais et une porte très lourde. Quand j'aurai la villa, je le localise et je le rapte. Comme j'aurais scellé des anneaux dans le mur, je l'enchaîne tout de suite en arrivant. Alors, à moi la bonne soupe. Je suis en face de lui, je le vois avec une extraordinaire précision sous mes paupières fermées. Oui, je le regarde de la même façon qu'il me regardait aux assises. La scène est claire et nette, à un tel point que je sens la chaleur de son souffle sur mon visage. Car je suis très près de lui, face à face. On se touche presque. Ses yeux d'épervier sont éblouis et affolés par la lumière d'un phare très fort que j'ai braqué sur lui. Il sue de grosses gouttes qui coulent sur son visage congestionné. Oui, j'entends mes questions, j'écoute ses réponses, je vis intensément ce moment. Alors, salopard, tu me reconnais ? C'est moi, papillon, que t'as envoyé si allègrement au dur, à perpète. Tu crois que ça valait la peine d'avoir bûché tant d'années pour arriver à être un homme supérieurement instruit, d'avoir passé tes nuits sur les codes romains et autres, d'avoir appris le latin, le grec, sacrifié des années de jeunesse à devenir un grand orateur ? Pour arriver à quoi, espèce de con ? À créer une nouvelle et bonne loi sociale ? À convaincre les foules que la paix est la meilleure des choses du monde ? À prêcher une philosophie d'une merveilleuse religion ou simplement à influer sur les autres par la supériorité de ta préparation universitaire pour qu'ils soient meilleurs ou s'arrêtent d'être méchants ? Dis, t'as employé ton savoir à sauver des hommes ou à les noyer ? Rien de tout cela, une seule aspiration te fait agir, monter, monter, monter les échelons de ta carrière dégueulasse. La gloire pour toi, c'est d'être le meilleur fournisseur du bagne, le pourvoyeur sans frein du bourreau et de la guillotine. Allons, tu deviens jobard, papillon. Cette cellule, ce silence t'emmène à la folie. Je n'ai pas de cigarette. J'ai fini la dernière hier. Je vais marcher. Après tout, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés, ni mon mouchoir sur eux pour continuer à voir ce qui va se passer. C'est ça, je me lève. La cellule a 4 mètres de long, c'est-à-dire 5 petits pas, de la porte au mur. Je commence à marcher, les mains derrière le dos, et je reprends. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en aura peut-être plus dans 2 semaines.
Merci. Eh ben, en fait, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que du coup, nous, on fait... on fait pas...
Les deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes jeudi du mois, quand ils existent.
Voilà. Et cette semaine, il n'y avait pas la rubrique Mégaphone. C'est la rubrique qui diffuse vos infos, messages et dédicaces pour et par les détenus dans toutes les langues. Et on vous rappelle que vous pouvez nous appeler tous les jours 24 heures sur 24 sur le portable et sur le répondeur du portable 07 81 35 93 71. Et les jeudis avant les émissions, du coup jeudi prochain, dès 17h30, on fait une permanence où vous pouvez nous appeler. Et si vous avez envie de parler avec nous pour diffuser des infos pour l'émission, laisser des messages ou... qu'est-ce que vous voulez. C'est au 04 78 29 26 00. Voilà, c'est la rubrique Mégaphone, rubrique qui diffuse vos infos, messages et dédicaces.
Eh ben, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine. Et la petite cuillère se termine. Et vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 FM. Avec les petites bandes continues.
Et voilà, et du coup, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. On n'a pas dit l'adresse pour nous écrire.
Ah oui.
On a oublié, du coup...
Vous pouvez nous écrire à l'atelier d'écriture. C'est au 91 rue Montesquieu, 69007, à Lyon.
Ouais, ça c'était l'ancienne adresse. On dit celle-là, vous pouvez écrire celle-là. Et aussi, il y a Canu, mais du coup, on n'a pas l'adresse postale. Et du coup, voilà.
Oui, très bien. Eh ben, donc, oubliez pas les messages, les lettres si vous avez envie. Et par ailleurs, si vous êtes pas en taule et que vous nous écoutez, vous pouvez venir à la manifestation en soutien à Kobané samedi 15h à la place Bellecour. Sachant qu'il y en aura une autre, une grande nationale qui aura lieu le 1er novembre. Au cas où vous pouvez pas à celle-là, vous pouvez toujours vous rattraper en venant à la suivante. Voilà, passez une bonne soirée et la petite cuillère vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.